France Inter.
Aujourd'hui, l'univers violent, raconté par...
Kumiko Kotera, astrophysicienne au CNRS, directrice de l'Institut d'astrophysique de Paris et co-porte-parole du projet Grande.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Le 17 août 2017, à 13h41, 4 secondes, heure de Paris, l'univers était tamisé et orange. J'étais enceinte de 8 mois et perché sur un escabeau, je déroulais un lait de papier peint dégoulinant de colle. À cet instant, de l'autre côté de l'Atlantique, à Hanford, état de Washington, et à Livingston, état de Louisiane, des cavités sous vide longues de 4 km dont l'ensemble forme le détecteur LIGO subissaient des déformations infinitésimales. Moins de 2 secondes plus tard, à 550 km de là dans l'espace, le satellite Fermi était bombardé de particules de lumière. Ces signaux quasi simultanés avaient traversé quelques 130 millions d'années-lumière pour nous offrir l'inédit. Une étrange danse macabre, deux cœurs d'étoiles massives avaient spiralé l'un vers l'autre avant de fusionner à jamais, perturbant l'espace et le temps alentour et libérant une puissante bouffée de matière et de lumière. Pour la première fois, nous assistions à un spectacle son et lumière de l'univers. LIGO et Virgo sont des observatoires d'un genre particulier. Ils forment un réseau de détecteurs équipés de miroirs séparés de 3 à 4 km qui cherchent à capter les infimes variations de distance induites par le passage des ondes gravitationnelles. Nous parlons là d'un 1/10 millième de la taille d'un proton, particule élémentaire d'un noyau atomique, ou encore 1/10 milliardième de mètre, un défi insensé. En 2015, LIGO l'avait pourtant relevé, ce défi, entrant dans l'histoire par la grande porte avec la toute première détection d'ondes gravitationnelles. Le 17 août 2017, à 12h, 41 minutes 4 secondes, LIGO, à Hanford, émet une alerte aussitôt reçue par tous les scientifiques. C'est le moment où des tasses à café sont renversées et où la sueur se met à perler, même dans les bureaux surclimatisés américains, car la forme des courbes est complètement différente de ce qui a été reçu jusqu'à présent. Les 1600 scientifiques de LIGO Virgo retenaient leur souffle alors que les preuves tombaient une à une. LIGO venait de détecter des ondes gravitationnelles d'un type nouveau. Elles avaient donc été produites par la coalescence de deux étoiles à neutrons, le restant de cœurs d'étoiles massives. Ces dernières années ont vu fleurir de nouvelles catégories de sources puissantes, tandis que des sursauts inattendus ont été capturés dans des objets a priori calmes. L'univers violent est en train de se révéler. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Kumiko Kotera.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. L'histoire que je viens de raconter, c'est la vôtre. Elle est extraite des premières pages de votre ouvrage « L'univers violent » publié chez Albin Michel. L'univers violent, on le découvre dans votre domaine ?
Oui, c'est vraiment quelque chose qui est en train de se passer en ce moment même. Je pense que ça fait 10 ans à peu près qu'on commence à comprendre, enfin à voir des messagers différents de cet univers violent, et c'est extraordinaire.
Ouais, qu'est-ce que vous appelez les messagers exactement ?
Oui, donc alors jusqu'à présent, on a toujours regardé le ciel avec la lumière. Enfin, jusqu'à présent, pendant très longtemps, on a regardé le ciel avec la lumière. C'était notre principal messager de l'univers, et là, depuis une décennie, on arrive en fait à entendre l'univers grâce à ce dont vous avez parlé là, ces ondes gravitationnelles. C'est comme si ça peut s'apparenter à du son de l'univers.
Ouais.
Et d'autre part, on va pouvoir toucher cet univers avec des messagers tangibles qui sont en fait des particules qui nous pleuvent du cosmos.
Donc c'est une autre astronomie qui est née là ces dernières années et qui vous permet de voyager et d'aller encore plus loin dans le temps. Vous qui vous présentez comme chasseuse de neutrinos, quelles sont ces bêtes alors que vous traquez exactement, Kumiko Kotera ?
Donc les neutrinos, ce sont des particules qui constituent en fait des particules un peu extraordinaires au sein de la matière ordinaire. Donc vous voyez ce que c'est qu'un noyau, enfin un atome. Donc à l'intérieur des atomes, vous avez des noyaux atomiques. Mmh. Autour de ça, vous avez un cortège électronique, donc des électrons. Et les neutrinos, ce sont les cousins des électrons, et ce sont des particules qui, en fait, n'interagissent avec rien. Enfin, interagissent très peu. En fait, ils interagissent, mais très peu, ce qui fait que, par exemple, là, à chaque instant, chaque seconde, on est traversé par 100 000 milliards de neutrinos qui nous proviennent du Soleil, et on ne s'en rend pas compte. Il faudrait qu'on vive 100 ans pour qu'il y ait une interaction avec notre corps.
Donc ils sont difficiles à détecter ?
Ils sont très difficiles à détecter.
Ouais.
On en a en abondance qui nous proviennent du Soleil, mais ceux qu'on traque, nous, qui viennent en fait de cet univers violent, des phénomènes les plus extrêmes de l'univers, ils sont très rares, et donc il va falloir ruser, il va falloir construire des détecteurs gigantesques avec des techniques poussées pour pouvoir avoir une chance de les détecter.
Et c'est la raison pour laquelle, pour percer ce mystère, hein, vous êtes à l'origine avec des camarades scientifiques de ce projet GRANT, qui est un réseau de 200 000 antennes radio réparties sur 200 000 km². C'est une surface équivalente à la Grande-Bretagne. Tout ça pour des neutrinos ?
Oui, donc c'est un projet qui effectivement paraît un peu fou. On y va étape par étape.
Oui. Hein.
Donc là, pour l'instant, on est en train de valider la technique de détection avec 300 antennes qui vont être installées dans le désert de Gobi. On en a pour l'instant 46 qui sont en train de prendre des données en ce moment même.
Donc en Chine.
En Chine, voilà. Et oui, donc des détecteurs radio, ce sont des détecteurs extrêmement simples et peu coûteux,
oui,
qui vont nous permettre du coup d'atteindre ces grandes surfaces à un prix raisonnable et pour effectivement détecter ces neutrinos.
Donc tout ça pourquoi ? Pour de la belle recherche fondamentale ?
Tout à fait.
C'est ça ? C'est pour,
oui,
comprendre les mécanismes de l'univers ?
Oui, en fait, donc oui, c'est ça. C'est que ouvrir cette fenêtre sur l'univers violent, cette fenêtre des particules de ultra haute énergie,
oui,
sur l'univers violent, ça devient crucial aujourd'hui. En fait, comprendre cet univers, il faut pour ce faire, il faut combiner toutes les informations dont on peut disposer. Lorsqu'on a un objet inconnu, on va avoir envie de le toucher, de le regarder, de le sentir, de le goûter peut-être même. Les neutrinos, parce qu'en fait, ils ont une caractéristique que les physiciens appellent la saveur.
La saveur, voilà, c'est ça. Ouais, ouais.
En fait, c'est presque comme si on allait goûter cet univers-là. Et donc, voilà, c'est effectivement pour la science fondamentale
que vous mettez toutes les chances de votre côté avec donc ces centaines de milliers d'antennes. Donc c'est vraiment un projet au long cours, effectivement, vous l'avez dit, vous commencez avec 300 d'entre elles. Vous qui êtes spécialiste des rayons cosmiques, donc, hein, et plus particulièrement des rayons cosmiques de haute énergie, des rayons, vous l'expliquez d'ailleurs dans votre livre, hein, qui sont des outils indispensables pour la physique des particules et qui nous bombardent donc en permanence, hein, sur Terre.
C'est ça, en fait, on en reçoit 1 kg par an. Sur,
oui,
Terre, ce qui paraît rien, sauf que si on...
À l'échelle de la planète, 1 kg, hein.
1 kg, sauf, ouais, qu'une particule, chaque particule fait 10 puissance moins 27 kg.
Ouais.
Donc on en reçoit 10 puissance 27, donc 1 avec 27 zéros.
C'est ça, donc c'est beaucoup,
Terre.
Ça pèse pas beaucoup, mais c'est énorme.
C'est,
hein,
c'est ça. En fait,
ce que ça représente.
La plupart viennent du Soleil, ou de l'univers, enfin de... très local, mais ceux qu'on cherche, nous, donc qu'ils soient ultra haute énergie, vont être... beaucoup plus...
plus éloigné de nous, hein,
oui,
que simplement en provenance du Soleil.
Beaucoup plus rare, en fait.
Ouais.
Et ceux-là, donc, on en reçoit aujourd'hui avec un détecteur qui est dans la Pampa, en Argentine, qui s'appelle,
ouais,
l'Observatoire Pierre Auger. On en détecte à peu près 2 par mois.
Et vous êtes content avec 2 par mois ?
Le détecteur fait quand même 3000 km²,
ouais,
et oui, ça veut dire que les flux sont très faibles. Mais justement, c'est parce qu'on n'est pas assez content,
ouais,
qu'on veut construire GRANT.
C'est ça, peut mieux,
voilà,
faire, donc d'où ce projet GRANT.
Oui.
Ces événements violents, puisque c'est le titre de votre livre, ils sont violents pourquoi ? Parce qu'ils produisent une quantité extraordinaire d'énergie ? C'est ça qu'on entend par la violence des phénomènes, au
c'est
fond ?
C'est ça, ils produisent une quantité extraordinaire d'énergie en des temps très courts. En des temps, en fait, humains. C'est,
oui,
ça qui est assez bluffant, c'est que l'univers, en fait, est assez immuable, enfin non, immuable, il est en mouvement constant, ça c'est sûr, mais sur des échelles de temps qui sont tellement gigantesques que nous, en tant qu'êtres humains, il faut vraiment combiner différentes observations pour voir ces évolutions. Par contre, ces événements qu'on appelle transitoires, qui constituent l'univers violent tel que moi je l'étudie, ce sont des événements qui peuvent s'échelonner entre une fraction de seconde,
c'est ça,
à un an.
Ouais.
Voilà.
Et donc, ça, c'est plutôt assez fugace.
C'est très fugace.
Malgré tout.
C'est fugace, c'est rare.
Imprévisible. Pour les astrophysiciens ?
Oui, c'est imprévisible. Imprévisible, assez. Enfin, on sait qu'il y a des endroits où on va pouvoir chercher ces sources-là, ouais. Mais quand même, oui.
Comico-Cotera, un événement majeur, avant même celui d'août 2017, dont on parlait dans la présentation tout à l'heure. C'est ce qui s'est passé eh bien, 2 ans plus tôt avec la découverte des ondes gravitationnelles. On va écouter cet extrait d'un documentaire de France 3 en janvier 2016, au moment de l'annonce.
Une conférence de presse en vidéodiffusion mondiale, l'événement est solennel. Depuis Washington, Paris et Pise, on annonce avoir observé pour la première fois un phénomène décrit par Albert Einstein il y a un siècle. Les ondes gravitationnelles sont des ondulations produites par des cataclysmes dans l'univers. Ici, la collision de 2 trous noirs. En se propageant, leurs ondes modifient de façon imperceptible l'espace et le temps, mais pour la première fois, elles ont été détectées par des stations de mesure.
Voilà, Comico-Cotera. Donc ça a été un vrai événement, parce que c'est une nouvelle fenêtre, hein. C'est bien ce que vous expliquez dans votre ouvrage, une nouvelle fenêtre de l'astronomie qui s'ouvre sur l'univers, c'est une autre façon de le voir. Et puis là, il y a eu un coup double avec cet événement, c'est non seulement la détection des ondes gravitationnelles, mais c'est aussi l'observation de la première collision entre 2 trous noirs, c'est ça ?
Complètement. On ne pensait pas d'ailleurs que c'était ça qu'on allait découvrir en premier, la collision de 2 trous noirs.
Ouais.
C'était des événements qui étaient théorisés, mais on ne savait pas que c'était aussi fréquent. Et maintenant, on en découvre à l'appel, quelques-uns par mois. Donc,
c'est devenu banal presque pour vous ?
Banal, je ne dirais pas, mais on en a quasiment une centaine maintenant, ouais. Avec LIGO Virgo. Ouais.
Et alors en 2017, donc 2 ans plus tard, on découvre un même phénomène d'onde gravitationnelle, mais ce ne sont pas des trous noirs qui sont à l'origine, hein, mais...
Des étoiles à neutrons.
Des cœurs d'étoiles à neutrons, voilà. C'est ça, qui ont fusionné aussi ?
Oui, des étoiles à neutrons qui sont donc les cœurs d'étoiles massives qui ont explosé, qui ont donné lieu à des supernovées. Donc le reste, c'est ces étoiles à neutrons. Ce sont les plus petites étoiles de l'univers, mais extrêmement costaudes.
Ouais.
Et qui ont effectivement fusionné.
Et ça offre de l'inédit, c'est ce que vous disiez également tout à l'heure.
Ah, c'est
encore une nouvelle page, là, pour le coup.
C'était la folie, parce que justement, c'est ça qui ouvre, en fait, cette ère multimessager ou multisensorielle. Donc là, on avait le son de l'univers, on avait la lumière de l'univers, et d'un coup, on a son et lumière à la fois.
Ouais.
Donc c'est formidable.
Et vous dites que pour toujours dans la civilisation humaine, on se souviendra de ce signal GW170817. C'est pas très poétique, mais c'est de ça dont il s'agit. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose de majeur. C'est une observation qui a enrichi considérablement, en fait, la compréhension de l'astrophysique.
Ah oui, c'est sur énormément de domaines, en particulier par exemple la production de l'or.
Ouais.
Là, ou du platine, tous ces éléments lourds, on ne savait pas. On a l'impression que voilà, c'est là, votre bague, tout ça. En fait, il faut se rendre compte que ces objets, depuis donc, cet événement, on a compris qu'ils avaient été créés dans des coalescences d'étoiles à neutrons.
Comico-Cotera, on va découvrir d'autres phénomènes violents de l'univers avec vous dans un instant. Et puis, vous allez répondre également aux messages, aux questions des auditeurs de la Terre au carré qui nous rejoignent sur la page de l'émission.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
Exploratrice infatigable, lancée dans une formidable odyssée de l'espace depuis 36 ans, la sonde Voyager 1 est le premier objet fabriqué par l'homme à avoir quitté le système solaire, à plus de 21 milliards kilomètres du Soleil.
On a réussi, c'est ce qu'on espérait tous en se lançant dans cette aventure il y a 40 ans. Bien sûr, la chance a joué, mais waouh, nous avons été sidérés en découvrant ces résultats après toutes ces années.
Extrait d'un documentaire de France 3 en septembre 2013 autour de la sonde Voyager 1. L'univers violent, c'est un livre dont on parle qui vient juste de paraître et que vous signez, Comico-Cotera, vous qui êtes astrophysicienne, c'est chez Albin Michel. Cette sonde Voyager 1, vous en parlez justement dans votre ouvrage, c'est un objet tout à fait particulier parce que c'est le premier objet humain qui est sorti du système solaire. Donc c'est-à-dire que c'est l'objet le plus éloigné de nous aujourd'hui. 47 ans d'opération depuis son lancement en 1977. Qu'est-ce qu'il a mesuré, Voyager 1, exactement ? Pourquoi c'est intéressant d'évoquer cette sonde ?
Il a un magnétomètre qui est embarqué, ce qui va permettre de mesurer la magnétisation de l'univers.
Le champ magnétique de l'univers ?
Le champ magnétique, voilà. Il a pu mesurer que d'un coup, on sortait du milieu interstellaire enfin non, pardon, de,
du système solaire,
du système solaire
pour rentrer,
et qu'on
dans,
rentrait
le milieu,
dans le milieu interstellaire
ouais.
Parce qu'il y avait d'un coup un changement dans, cette, dans ce champ magnétique.
Ouais, il a été bombardé tout d'un
il
coup
Il a été effectivement bombardé. Donc on a en fait à l'intérieur de, du système solaire une... un certain niveau de bombardement de rayons cosmiques, donc ce sont des particules qui sont accélérées par, par différents objets, là en l'occurrence le Soleil,
oui.
Et donc des particules en fait comme, comme vous et moi, hein, qui nous constituent en fait, ce sont des noyaux atomiques, et donc on, d'un coup ce bombardement a, a changé de nature, on est passé de quelque chose de moyennement énergétique à très énergétique,
oui.
Et c'est là où on voit qu'en fait on passe de rayons cosmiques solaires à des rayons cosmiques produits par d'autres événements, dont les supernovées.
Et donc ça a signé la sortie de cette sonde de notre environnement le plus proche, qui est le système solaire finalement.
Tout à fait.
Donc c'est-à-dire que cette sonde, elle a aussi subi des événements violents qui ont été enregistrés, on pourrait dire les choses comme ça ou pas ?
Oui, toutes les sondes en fait subissent ces bouffées de matière qui viennent du Soleil, et après... il faut qu'ils aient des boucliers pour pouvoir
continuer leur route. Hein.
Exactement.
Et Voyager est toujours en, en fonctionnement aujourd'hui ?
Voyager est en fonctionnement, on continue à nous envoyer des données, on ne sait pas exactement jusqu'à quand, mais jusqu'à ce qu'on coupe le cordon,
c'est ça.
Il y a encore peut-être quelques années.
Ça fonctionne pas mal. Kumiko Kotera, vous dites que la passion du ciel violent, c'est une dévotion un peu coupable à la science. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ?
Comme on le disait tout à l'heure, le ciel violent, c'est quelque chose de, d'imprédictible. Donc ça veut dire qu'il faut être vraiment prêt à mesurer un événement violent au moment où il arrive. Et au moment où ça arrive, c'est tellement unique qu'il faut tout mobiliser, s'arrêter de tout faire, s'arrêter de dormir, s'arrêter de respirer.
C'est ce que vous décrivez. Hein, la vie scientifique, par moments, c'est compliqué.
C'est
hein.
ça. Et
se consacrer à ses observations,
voilà.
en fait.
Mais dans un effort collectif, en fait. Et donc, tout à l'heure, vous disiez, c'est votre histoire. En fait, c'est pas mon histoire, c'est
l'histoire
de
collective,
toute la communauté.
Mais
voilà.
Vous y participez largement. Hein. C'est 1600 chercheurs, en tout cas, pour la détection des ondes gravitationnelles, on le disait tout à l'heure. Hein. Donc, ça veut dire que ça mobilise des gens sur l'ensemble de la planète, dans un milieu, d'ailleurs, qui est pas forcément très simple hein, non plus. Vous parlez d'une compétition acharnée aussi entre les chercheurs, parce qu'évidemment, à la clé, il y a aussi des prix Nobel, comme pour la détection des ondes gravitationnelles. Et vous parlez de bain de sang, carrément. Vous employez le terme hein, dans le livre.
Oui, c'est le terme employé par mon ami que j'ai retranscrit.
Ouais.
Oui, c'est parmi les chercheurs, c'est pas toujours évident. Je pense qu'il y a beaucoup de. En fait, on brasse pas d'argent, enfin à part qu'il en faut pour pouvoir construire nos instruments. Mais nous, à la fin, notre récompense, c'est un peu la reconnaissance.
Donc de publier, d'être reconnu.
Voilà. Donc il y a beaucoup d'ego.
Ouais.
Et cette reconnaissance, elle peut parfois se traduire par des frictions.
Ouais.
Voilà.
Et c'est compliqué quand on est aussi nombreux sur une seule découverte, par exemple, hein, sur les ondes gravitationnelles, quand il y a presque 2000 chercheurs, bah évidemment, il y a des labos dans le monde qui veulent être les premiers à pouvoir revendiquer la découverte.
Oui, c'est ça. Bah après, on essaye quand même, ça reste de la physique, ça reste de la science pour laquelle on est tous motivés. Mmh. Donc on arrive quand même à trouver des solutions, et c'est ce qui s'est passé. Là, on a fait des publications communes.
Communes, hein, avec beaucoup de signatures, effectivement. Kumiko Kotera, quel type d'exploration vous attire, vous, concernant le ciel, pour comprendre un peu votre état d'esprit d'astrophysicienne hein. Est-ce que c'est justement d'aller voyager dans le système solaire, ou c'est bien au-delà ?
Ah non, pas du tout. Je ne suis absolument pas intéressée par le voyage cosmique in situ.
Ouais.
Non, moi, je préfère rester sur Terre et voyager sur Terre.
Ouais.
Mais justement,
avec votre cerveau, alors ?
Alors, avec mon cerveau. Mais j'adore aussi les missions sur le terrain. C'est quelque chose d'assez indescriptible. C'est très émouvant d'être sur le terrain et d'être connecté entre l'instrument, le ciel et les collègues. Ouais. Ça, c'est ça, peut-être, mon exploration.
Donc, exploration cérébrale et collecte des données depuis la terre ferme. Hein. Vous dites
voilà.
que ça vous convient mieux, en fait,
oui.
que cette exploration in situ. Parmi les phénomènes violents, alors il y en a évidemment plusieurs que vous citez, évoquons les sursauts gamma. De quoi il s'agit exactement ? Parce qu'au moment de la découverte des ondes gravitationnelles en 2017, via justement les fusions d'étoiles, il y a au même moment une question qui s'est posée sur les scientifiques, c'était de savoir si un sursaut gamma avait été repéré. Alors pourquoi et qu'est-ce que c'est qu'un sursaut gamma ?
Alors un sursaut gamma, donc en fait il y en a différentes sortes, il y a les sursauts courts et les sursauts longs. Les sursauts courts qui en fait ont été associés donc à GW170817.
La découverte donc de 2017.
Voilà, ce sont donc des sursauts qui résultent de cette coalescence d'étoiles à neutrons qui produit une telle énergie qu'elle va être canalisée en un jet très fin, un faisceau très fin de matière et de lumière.
Donc au moment de la fusion des étoiles, c'est ce qui se passe hein.
Exactement. Ouais. Et c'est ça qu'on voit. En fait, on a eu beaucoup de chance parce que ce jet a été orienté dans notre axe. Si on n'était pas dans cet axe-là, on n'aurait juste rien vu. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs. On voit des ondes gravitationnelles, probablement d'étoiles à neutrons, mais sans contrepartie associés en lumière.
Et c'est très court, hein. Vous dites que ça ne dure qu'entre 10 000 secondes et 1 à 2 secondes. Donc il faut vraiment être là au bon moment.
Tout à fait.
Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a aussi des sursauts gamma longs, des événements plus longs quand même.
C'est ça, mais alors quand on dit long, là c'est de l'ordre de quelques secondes, dizaines de secondes. Hein. Donc c'est pas non plus... c'est pas non plus
À vos échelles, c'est long.
C'est plus long que les courts. Ouais. Mais alors ceux-là, ce sont... en fait, ces sursauts gamma longs, ce sont les événements les plus violents qu'on connaisse de l'univers. Au moment où ils arrivent dans l'univers, ce sont les objets les plus brillants dans tout l'univers. Ouais. Donc, ils dégagent une énergie faramineuse. Et ça, donc, c'est en fait le mécanisme de production de ces sursauts longs est différent. C'est une étoile massive qui, en fin de vie, va s'effondrer sur elle-même, exploser. Et là, pareil, donc, production d'un jet. Un faisceau très, très fin qui va nous envoyer de la matière, de la lumière.
Quand vous parlez de cette violence, on se dit mais ça a quelles conséquences en fait ? Alors à la fois dans le cosmos, mais par exemple sur Terre, est-ce qu'on peut être soumis aux effets de ces événements majeurs ou pas ?
On pourrait en fait, s'il y avait un événement comme ça qui se produisait très près de la Terre, ça ne va pas être le cas, hein, parce que c'est tellement rare.
Merci de nous rassurer.
Oui. On aimerait bien qu'il y en ait un déjà dans l'univers local et on serait super content de le voir justement en multisensoriel, son lumière, toucher, saveur. Mais oui, à moindre échelle, donc les supernovées par exemple, qui sont un autre type d'objet violent, peut avoir des conséquences même l'atmosphère en fait de la Terre, mais bon, c'est des toutes petites choses.
Ouais, ça aussi, c'est la mort d'étoiles massives, les supernovées.
Oui,
c'est des explosions liées à ces morts d'étoiles, ouais.
Tout à fait. Donc, une étoile massive qui, au-delà de 8 masses solaires, donc 8 fois la masse de notre Soleil, va finir sa vie en s'effondrant sur elle-même et en explosant. Et cette bouffée de matière et de lumière, c'est ce qu'on voit sous forme de supernova.
Vous parlez d'un événement qui s'est passé en 1054 après Jésus-Christ. Des astronomes chinois ont vu une supernova dans le ciel.
Oui.
Donc ça représente, on imagine, on est à leur place, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on verrait ?
Alors on a vu ce qu'ils appellent eux une étoile invitée. Ils en voyaient souvent en fait, c'était pas leur première. Alors 1054 est assez remarquable parce qu'elle a été repérée non pas juste par les astronomes chinois, mais par l'ensemble, enfin par beaucoup de personnes, par beaucoup de civilisations, y compris en Europe.
Ouais. Vous dites qu'on le retrouve dans plein de gravures, hein, par exemple, cet événement. Hein.
Oui, oui.
Donc qu'est-ce qu'on voyait ?
On voyait en fait une étoile qui s'était allumée et qui a brillé pendant plusieurs, je crois, une année entière, voire plus, et qui a laissé... qui était tellement brillante que... Alors, je ne me rappelle plus si, en fait, on la voyait en plein jour, mais voilà, c'était vraiment très remarquable.
Elle sortait du lot de ce qu'on voyait habituellement dans le ciel étoilé. Hein. Et de cette supernovae de 1054, donc, de cette époque, il reste quoi aujourd'hui ? Est-ce qu'il y en a encore des traces ou pas ?
Oui, c'est ça qui est remarquable aussi, c'est qu'on voit aujourd'hui le reste de cette explosion sous forme d'une nébuleuse. Donc c'est très beau, une nébuleuse, en fait, c'est comme des espèces de filaments un peu pas nébulaires, comme des bouts de coton un peu très colorés, qui sont sur une taille assez, assez grande. Et donc ça, on peut le voir, ça s'appelle la nébuleuse du crabe, et qui est du coup un des objets astrophysiques les plus étudiés, les plus observés.
Ouais. C'est un nuage de débris qui a été éjecté au moment de l'explosion de cette supernovae.
Voilà.
Et ce nuage, vous le décrivez, puisque vous avez pu l'observer depuis l'observatoire de Haute-Provence, cette nébuleuse du crabe. Kumiko Kotera, vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant avec d'autres messages, d'autres questions autour de ces phénomènes violents de l'univers.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
Oh shit! Donc ça, c'est des enregistrements qu'on appelle minimum bias. Et alors, il y a une bonne nouvelle, une mauvaise nouvelle.
Je commence par laquelle tu préfères quoi?
La bonne, c'est qu'il n'y a pas d'impulsion. Il n'y a pas de signaux transitoires nets, violents. Par contre, l'impression que j'ai, c'est que la ligne de base, elle est plus élevée que ce qu'on a mesuré à Ulastai, qui est le site de référence dans le Xinjiang. Donc, ce qui voudrait dire que le niveau de bruit moyen est plus élevé.
Kumiko Kotera, vous qui publiez L'univers violent chez Albin Michel, c'est votre collègue expérimentateur Olivier Martineau que l'on vient d'entendre, à côté duquel vous étiez d'ailleurs au moment de ce tournage en Chine, dans le désert de Gobi. Est-ce que vous pourriez nous traduire cette conversation qui, pour franchement le commun des mortels, est absolument incompréhensible? Moi, j'ai rien compris de ce que je viens d'entendre là quand même. Hein. Qu'est-ce que vous êtes dit là?
Alors, en fait, je sais plus quel...
Il vous fait une description, ben, je suis incapable de vous le dire, parce qu'il vous décrit en tout cas ce qui se passe dans ce contexte autour des antennes que vous avez posées en Chine.
Oui, alors en fait, l'un des gros challenges de la radiodétection de ces particules, c'est de mesurer ces très faibles signaux radio émis par les particules.
Ouais.
Et pour ça, il faut faire la différence entre le bruit humain radio et ces signaux. Et je crois que là, il parlait de justement cette ligne de base, c'est combien de bruit radio on mesure dans l'environnement. Et voilà, c'est...
Cette friture qui peut vous empêcher d'avoir une bonne perception des choses, en réalité.
Ouais.
En tout cas, il a eu l'idée d'implanter de nombreuses antennes dans les montagnes de Chine. Et c'est pour ça que vous avez développé ce projet Grant.
C'est ça, en fait, c'est assez marrant comme ça s'est fait. Il est venu me voir un jour pour prendre un café et il me dit « Je voudrais planter plein d'antennes, mais plein dans des montagnes en Chine et pour détecter des neutrinos de ultra haute énergie, mais je ne sais pas si ça va intéresser quelqu'un.
Mmh. »
Et il se trouve que j'avais 13 ans, enfin, ça faisait un certain temps que je travaillais sur des modèles pour détecter, enfin pour qui prédisait des flux de neutrinos de ultra haute énergie. J'étais désespérée parce que aucun détecteur n'allait avoir la sensibilité pour le faire. Et là, il me présente sur un plateau un projet de détecteur qui va pouvoir le faire. Et je lui dis, mais c'est génial, on va faire ton truc là.
Donc c'est Grant, c'est ce projet
Grant. Voilà.
Donc ça a commencé déjà, c'est-à-dire que vous le disiez tout à l'heure, vous avez planté déjà 300 antennes à peu près.
Donc là, non, on a la mécanique de 60 antennes, donc 60 structures d'antennes qui sont déployées dans le désert.
Ouais.
46 prennent des données actuellement, de très belles données. Et oui, ça a commencé déjà. Je pense que, j'espère que d'ici l'été, on aura très beaux résultats annoncés. Ouais.
Qu'est-ce que vous entendez par très beaux résultats, justement?
Alors, donc là, on en est vraiment au point où on veut valider la technique de détection. Faire de la détection radio d'astroparticules, encore une fois, donc purement radio, ça n'a jamais été fait. Donc en fait, dans notre communauté, c'est un peu le Graal, parce que si on arrive à faire ça, ça veut dire qu'on va pouvoir faire une mise à l'échelle, planter plein d'antennes et détecter ces particules. Mais tant qu'on ne l'a pas prouvé, c'est pas possible, et donc c'est ça qu'on veut faire, on va prouver ça, et d'ici l'été, j'espère qu'on va pouvoir dire c'est bon, on y va.
Tout ça pour vos neutrinos, en fait, c'est ça? Pour essayer d'être plus rusé que les neutrinos et de les détecter?
Oui, c'est ça, toujours, voilà.
Ouais.
Là, on va d'abord mesurer des rayons cosmiques, qui sont des particules bien connues qu'on détecte régulièrement, et c'est là-dessus qu'on va valider la technique de détection.
Est-ce que ce projet, Grant, de recherche fondamentale, pourrait donner naissance quand même à des innovations technologiques dans d'autres domaines, par exemple?
Absolument, parce que, justement, pour pouvoir répondre en fait à ces signaux dans des bruits ambiants radio très très intense, ouais. Il faut développer des technologies, une électronique qui va pouvoir répondre, enfin qui va pouvoir encaisser tout ce bruit. Enfin, il y a tout un système à mettre en place. Donc là, il y a du travail. Ouais. Toute la communication entre les antennes sur de très grands réseaux, comme on veut faire, ça aussi, c'est de la technologie. Enfin, c'est comme toujours en fait. La science fondamentale, bon, d'un point de vue technologique là, en l'occurrence pour cet instrument, mais même tout ce qu'on va pouvoir comprendre de l'univers violent, en fait, on ne sait jamais à quoi ça va. Enfin, ça sert toujours.
Kumiko Kotera, vous savez que vous êtes ici dans une émission de dangereux écologistes radicaux. Donc, quand vous me parlez de planter des antennes partout dans le désert et dans la nature, je me dis, mon Dieu, mais à quoi ça va ressembler? Est-ce que c'est une question que vous êtes posée, justement, ça, de l'impact aussi que pouvaient avoir toutes ces techniques sur un paysage, par exemple? Parce qu'on pense à toutes ces éoliennes. Est-ce que les antennes, par exemple, aussi, peuvent défigurer un paysage? Et est-ce que c'est des questions auxquelles vous pensez, ça?
Oui, oui. Dans Grande, on a très tôt commencé à s'intéresser à cette question. On a d'ailleurs été les premiers en astrophysique et je pense même en physique fondamentale à faire notre bilan carbone. Parce que, voilà, 200 000 antennes sur 200 000 km², on s'est tout de suite dit, pas comme vous le dites, hein, que ça allait avoir un impact. Donc ça a inspiré d'ailleurs pas mal d'autres manips. Ce qu'on a vu, c'était qu'on avait deux forts impacts sur l'équipement, déjà, évidemment, mais aussi sur le numérique. Ouais. C'est-à-dire que toutes les données qu'on allait récolter, stocker et transmettre, ça allait être très... ça allait avoir un bilan carbone certain. Mmh. Bon, après, on parle de 1000 voitures, l'équivalent de la production de 1000 voitures par an. Sur 200 000 antennes.
Ouais.
Donc, par rapport aux industries, c'est pas grand-chose.
Oui, bon, mais on peut toujours trouver mieux ailleurs, effectivement.
Bien sûr, mais en tant que scientifique, voilà.
Vous essayez de minimiser quand même ces impacts, d'une certaine manière, en trouvant des matériaux.
Oui, c'est ça, exactement. En fait, après cette première étude, on s'est dit, là, on est en phase prototypaire, on va essayer de diminuer notre impact. Et donc, on a fait une analyse cycle de vie sur nos antennes, en particulier. Et on a pu voir qu'il allait y avoir des solutions, par exemple, en changeant l'alliage de nos antennes, en travaillant sur les batteries ou les panneaux solaires. Et comme ça, diminuer de 60 à 90% notre impact. Donc, c'est vraiment des questions qui nous préoccupent. On se rend bien compte. Hein.
Donc, ça intéresse un astrophysicien aussi, l'écologie?
Ah oui, oui, on est vraiment, je pense que parmi tous les collègues, c'est quelque chose qui nous travaille.
Allez, on passe aux questions, parce qu'il y en a pour vous. Kumiko Kotera, Pierre demande quel autre type d'événements violents peuvent générer des ondes gravitationnelles? Donc on parlait de la fusion des trous noirs, la fusion des étoiles, est-ce qu'il y en a d'autres?
Tout ce qui est un peu massif et asymétrique va générer des ondes gravitationnelles, mais à différents niveaux. Par exemple, même les supernovées, j'en parle aussi dans mon livre, leur cœur, s'il est assez asymétrique, en bougeant, va perturber en fait la toile de l'espace-temps, parce que c'est vraiment ça qui se passe, et nous envoyer du coup ces perturbations, et on va peut-être, si la supernova est proche, pouvoir mesurer ces ondes.
Philippe demande un pronostic sur l'explosion de Bételgeuse en supernova. Justement, vous en parlez aussi dans votre ouvrage de Bételgeuse.
Oui, tout à fait. J'en parle, mais c'est vraiment quelque chose qui peut ou ne pas arriver. Je pense pas que ça va arriver demain. On a vu qu'il y avait des petites variations, enfin il y avait eu des grosses variations qui ont fait la une et tout le monde s'est excité en voyant que il y avait une baisse de luminosité dans l'étoile. On a vu que c'était juste un nuage qui passait devant. Ouais. Personnellement, je m'y attends pas à demain.
Donc il faut être serein, c'est ça.
Il faut être serein. Mais même si ça arrivait, il faut être serein parce que c'est juste de la lumière.
Hein. Alain demande est-ce qu'il y a un impact des ondes gravitationnelles sur le corps humain?
Non, a priori. En tout cas, pas que je sache. Ouais. En fait, l'impact est tellement faible qu'il faut construire des réseaux, des instruments de 4 km. C'est tellement déjà dur à mesurer, même avec des instruments perfectionnés, que j'en doute.
Daniel demande, les ondes gravitationnelles émettent-elles vraiment un son? Puisque vous parlez des sons et de la lumière, l'univers, le monde du silence, n'est-il pas justement de ne pas avoir de son dans l'espace?
Oui, non, c'est pas du son, c'est vraiment une image. Hein. C'est juste que Ce sont des ondes donc, qui perturbent la toile de l'espace-temps. J'apparente ça à du son parce que c'est dans la fréquence.
Oui, vous parlez beaucoup de musique d'ailleurs
c'est
dans
ça,
l'ouvrage.
Hein. Oui, c'est vraiment une image. Il faut voir ça.
Comme la saveur des neutrinos, c'est pareil,
exactement.
On est dans l'image.
Voilà.
Pascal, est-ce que les éléments les plus lourds du tableau de Mendeleïev proviennent de la fusion d'éléments plus légers au cœur des étoiles?
Oui, tous les éléments lourds en fait, sont produits au cœur des étoiles ou alors lors d'explosions. Il faut vraiment beaucoup d'énergie pour permettre cette fusion, pour permettre la création de ces noyaux atomiques. Donc, et comme je disais tout à l'heure, les éléments les plus lourds, en fait, sont probablement produits par les coalescences d'étoiles à neutrons.
Et puis, dernière question de Sophie. Est-ce qu'une explosion de supernova peut avoir une incidence perçue sur Terre? Je vous posais déjà un petit peu la question tout à l'heure, mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous.
Oui, donc oui, il peut y avoir une incidence si jamais on a une supernova assez proche. Et même, en fait, ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'il y a peut-être eu un sursaut gamma qui a peut-être perturbé la Terre il y a longtemps. Mais vraiment,
c'est-à-dire longtemps?
Je ne saurais pas dire, mais l'être humain n'était pas là, je pense.
Ouais.
Et parce qu'on voit aussi, quand même, dans les couches sédimentaires, de temps en temps, on voit des... Il y a peut-être des traces de radiation. Voilà.
Et de ces événements violents. L'univers violent, c'est l'objet de votre livre Comico Cotera, qui vient juste de paraître aux éditions Albin Michel. Merci beaucoup d'être venu nous en parler aujourd'hui.
Merci.
Dans la Terre au carré, et bon retour à vous. Merci.